à Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 17h30 en temps universel. Jacques Aristide et Morgane Guerriec en votre compagnie. Nous sommes ravis de vous retrouver pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Les titres en ce mardi 5 mars 2019.
Et situation toujours très tendue en Algérie. Les manifestations se poursuivent en dépit des promesses de Bouteflika.
Le gouvernement burundais ferme le bureau des droits humains de l'ONU à Bujumbura.
Au Nigeria, plus de 300 personnes arrêtées en lien avec les élections.
Des chercheurs confirment qu'un deuxième patient atteint du sida s'est remis de cette maladie.
Dans la partie magazine, plein feu sur le retour du spectre de la pénurie au Zimbabwe.
Le pain est maintenant trop cher. Parfois, nous prenons de la bouillie, des patates douces ou des légumes verts. Si nous pouvons avoir du pain une fois par semaine, ça va.
À venir tout à l'heure. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives à venir dans 10 minutes.
Plusieurs milliers d'étudiants algériens défilent à nouveau ce mardi à Alger, la capitale, et dans plusieurs villes du pays contre la 5e candidature du président Abdelaziz Bouteflika. Ils rejettent les promesses du chef de l'État de réformer et de ne pas aller au bout de son éventuel nouveau mandat. Compte rendu, Erine Hermanoumbo.
Et Bouteflika, il n'y aura pas de 5e mandat ou ramener les commandos de l'armée et la BRI, il n'y aura pas de 5e mandat, scandent les étudiants dans le centre d'Alger. Ils sont applaudis par les passants avec des coups de klaxon par les automobilistes. Ils sont venus par milliers des universités d'Oran, de Constantine et d'Annaba pour exprimer leur mécontentement. Des manifestations ont eu lieu également à Béjaïa, à l'est d'Alger, en Kabylie, à Blida, Bioura ou Tizi Ouzou, ainsi qu'à Sétif et Tlemcen, selon le quotidien El Watan. Le président Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, est la cible d'une contestation déclenchée par l'annonce de sa volonté de briguer un 5e mandat lors de la présidentielle du 18 avril. Le chef de l'État a annoncé dans une lettre lue à la télévision nationale qu'il n'allait pas au bout de son mandat s'il était réélu. Monsieur Bouteflika, au pouvoir depuis 20 ans, souffre des séquelles d'un AVC. Il est actuellement hospitalisé en Suisse pour une visite dite de routine.
En République démocratique du Congo, 2 soldats et 1 milicien ont été tués dans l'attaque par les Mai Mai d'un camp militaire à Butembo dans l'est du pays, tandis que 4 civils ont été tués à Goma, capitale du Nord Kivu. Leurs corps ont été retrouvés aujourd'hui. Butembo est visé depuis quelques semaines par des attaques d'hommes armés, attaques qui ont même perturbé les opérations de riposte contre la 10e épidémie d'Ebola qui sévit dans la région depuis 7 mois. Quant aux auteurs des tueries de Goma, ils n'ont pas encore été identifiés. Depuis le début de l'année, environ 30 personnes ont été tuées à Goma par des hommes armés non identifiés.
Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a annoncé ce mardi avoir été obligé de fermer son bureau au Burundi après 23 années de présence dans ce pays à la demande du gouvernement burundais. Les détails avec Yakuba Ouedraogo.
C'est avec un profond regret que nous avons dû fermer notre bureau au Burundi, a déclaré Michel Bachelet du Haut Commissariat de l'ONU, précisant que le bureau a été fermé le 28 février. Le gouvernement a demandé la fermeture du bureau de l'ONU le 5 décembre, selon le Haut Commissariat, disant que le pays a fait suffisamment de progrès pour mettre en place des mécanismes nationaux de protection des droits de l'homme. Madame Bachelet a relevé que les avancées en matière de droits de l'homme ont été mises en péril depuis 2015. Elle s'est dite déçue par le manque de coopération de Bujumbura. Depuis janvier, l'ONG Handicap International, présente au Burundi depuis 1992, a quitté ce pays en raison de l'obligation faite par le gouvernement du fichage ethnique de ses employés. La candidature du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat en 2015 a fait au moins 1 200 morts et plus de 400 000 déplacés, d'après les estimations de la Cour pénale internationale qui a ouvert une enquête.
Nouveau gouvernement en République centrafricaine, le ministre de la fonction publique Bertin Béa, secrétaire général du parti de l'ancien président François Bozizé, a annoncé ce mardi avoir démissionné du cabinet nommé dimanche dernier. Une décision prise à la lumière de la publication de la composition du gouvernement d'après son parti. Ce nouveau gouvernement, supposé inclusif selon les termes de l'accord de paix signé début février entre Bangui et les 14 groupes armés, a mis à mal l'accord de Khartoum, estime certains certains signataires.
Au Tchad, la nouvelle commission électorale, mise en place par décret présidentiel fin février et qui doit organiser des législatives plusieurs fois reportées, fait débat quant à sa composition, l'opposition estimant ne pas y être convenablement représentée. Selon Max Kemkoye, chef du parti UDP, la désignation des 15 membres représentant l'opposition à parité avec les 15 représentants pour la majorité ne s'est pas faite dans les règles. Pour le MPS, le parti au pouvoir, le président n'a fait que traduire dans les actes ce qui avait été décidé par le cadre national de dialogue politique.
Au Nigeria, plus de 300 personnes suspectées d'avoir commis des infractions liées aux élections présidentielles et législatives du 23 février dernier ont été arrêtées. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le patron de la police nationale, Claire Morin-Gibourg.
C'est par communiqué que l'inspecteur général de la police, Mohamed Adamou, a annoncé l'arrestation de 323 personnes pour infractions électorales et divers crimes à travers le pays. Selon lui, deux policiers ont en outre été tués et d'autres agressés et blessés. Selon la société civile nigériane, 53 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées lors des élections. Le président sortant, Muhammadu Buhari, a remporté la présidentielle face à son rival, Atiku Abubakar, avec une avance de près de 4 millions de voix. Monsieur Abubakar a dénoncé une parodie d'élection et a annoncé qu'il allait déposer un recours en justice. Le Nigeria a une tradition de violence électorale. En 2011, plus de 1000 personnes avaient perdu la vie dans le nord du pays.
Nigeria encore, au moins 30 personnes ont été tuées dans l'attaque d'un village dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du pays, une région en proie à des bandes armées qui terrorisent la population. Ce sont des hommes armés à moto qui ont attaqué dimanche le village de Kware. Ils ont ouvert le feu sur des habitants et incendié des maisons. Sur place, des villageois ont toutefois fait état d'un bilan plus élevé.
Toujours au Nigeria, un tribunal a ordonné la confiscation au profit du gouvernement de biens et $1 million en espèces ayant appartenu à un ancien chef d'état-major tué alors qu'il était jugé pour corruption. L'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, Alex Badé, a été abattu dans sa voiture par des inconnus armés sur une route à l'extérieur de la capitale Abuja en décembre dernier.
Au Soudan, les autorités ont libéré un leader de l'opposition arrêté en marge du mouvement de contestation qui secoue le pays depuis le 19 décembre dernier. Omar El Diguer, chef du parti du Congrès soudanais, avait été appréhendé 10 jours après le début des manifestations déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain dans un pays en plein marasme économique. Malgré la répression des autorités, les rassemblements se sont rapidement transformés en un mouvement de contestation réclamant la démission du président Omar El-Béchir au pouvoir depuis un coup d'État en 89.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ce n'était arrivé qu'une fois il y a 10 ans. Des chercheurs ont confirmé aujourd'hui qu'un deuxième patient atteint du sida s'était remis de la maladie. Il s'agit d'une rémission durable après que le patient a interrompu son traitement, un résultat qui ouvre la perspective de réussir un jour à guérir du VIH. Abdourahmane Dia nous en dit davantage.
Ce deuxième cas, connu comme le patient de Londres, n'a pas montré de signe de la maladie depuis près de 19 mois, selon les chercheurs dans le journal Nature. Les deux patients ont subi des transplantations de moelle osseuse pour traiter des cancers du sang en recevant des cellules souches de donneurs ayant une mutation génétique rare qui empêche le VIH de s'installer. En parvenant à une rémission sur un deuxième patient, tout en utilisant une approche similaire, nous avons montré que le premier patient ou patient de Berlin n'a pas été une anomalie, s'est félicité le principal chercheur Ravindra Gupta, professeur à l'université de Cambridge. Des millions de personnes infectées par le VIH à travers le monde contrôlent cette maladie à l'aide des antirétroviraux qu'ils doivent prendre à vie, mais ce traitement ne débarrasse pas les patients du virus. Cela représente un défi particulier dans les pays en voie de développement où des millions de personnes n'ont pas accès à un traitement adéquat, a dit le chercheur. Près de 37 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde, mais seuls 59% d'entre elles ont accès aux antirétroviraux. Près d'un million de personnes meurent chaque année d'affections liées au sida.
Syrie, des centaines de personnes ont été évacuées du village de Baghouz, l'ultime bastion du groupe État islamique dans l'est du pays, sous la supervision des forces démocratiques syriennes. Cette coalition arabo-kurde a ralenti depuis dimanche son assaut contre le dernier réduit des combattants djihadistes pour permettre aux civils qui y sont retenus et aux combattants qui veulent se rendre de quitter l'enclave. Les FDS procèdent à des fouilles et des interrogatoires pour identifier les djihadistes qui se cacheraient parmi la foule.
Les tensions persistent entre l'Inde et le Pakistan. La marine pakistanaise dit avoir empêché un sous-marin indien d'entrer dans ses eaux territoriales. Les forces pakistanaises soulignent toutefois que le sous-marin indien n'a pas fait l'objet de tirs de représailles, conformément à la politique de maintien de la paix menée par le gouvernement.
Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir.
Sans plus tarder, en condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Nanit Talani.
16 milliards de dollars, c'est le montant des pertes enregistrées par le Nigeria à la faveur des compagnies pétrolières de 2008 à 2017. Elle pourrait atteindre 28 milliards de dollars si l'on inclut des recettes venant de deux licences non comptabilisées. C'est la conclusion du nouveau rapport de l'Initiative pour la transparence des industries extractives du Nigeria. La Tribune écrit que ces pertes sont dues à la non-révision des contrats de partage de production avec les sociétés pétrolières. Un examen urgent des guichets uniques s'impose pour limiter les énormes pertes de revenus subies par le pays. L'Afrique du Sud a enregistré une croissance de 0,8% en 2018 après un début d'année marqué par la récession. Selon l'Agence nationale des statistiques, cette croissance a été juste suffisante pour permettre à l'économie de sortir du rouge. La finance, l'immobilier et le commerce en sont les principaux moteurs. Par contre, l'agriculture, la construction et les mines ont eu de très mauvais résultats. La production d'or a ainsi chuté à 14,5%, la plus importante baisse annuelle depuis 2008. Terminons avec le Soudan qui a baissé son taux de change de douane à 15 livres soudanaises par dollar contre 18 auparavant. Il a également réduit de 75% les frais de stockage pour les cargaisons et les conteneurs bloqués dans les ports entre le 1er et le 25 février.
Et maintenant, tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Huitième de finale, retour en Ligue des Champions ce soir.
Oui, c'est à partir de 20h temps universel avec Real Madrid, Ajax, Amsterdam et Borussia Dortmund, Tottenham, battu à domicile à l'aller 2-1. L'Ajax comptera notamment sur son joyau marocain Hakim Ziyech pour tenter de renverser les Merengues qui n'ont plus que cette compétition pour sauver leur saison. Un autre marocain, Nusayir Mazraoui, et le gardien camerounais André Onana doivent aussi débuter côté Ajax. Dans l'autre affiche du jour, l'Ivoirien Serge Aurier et le Kenyan Victor Wanyama sont pressentis titulaires pour permettre à Tottenham de composter son billet pour les cas. En face, avec 3 buts de retard à remonter, le Borussia Dortmund du Marocain Achraf Hakimi aura besoin d'un exploit à l'Iduna Park.
Morel et Anissé dans la liste de Madagascar contre le Sénégal.
Oui, déjà qualifié pour la CAN en 2019, le Sénégal et Madagascar s'affrontent lors d'une rencontre sans enjeu à Thiès le 23 mars prochain. Et pour ce déplacement, le sélectionneur des Baréas, Nicolas Dupuis, a dévoilé une liste de 20 joueurs. On note le retour du cadre Abel Anissé de Ludogorets, blessé durant plusieurs mois et qui retrouve la sélection avec le gardien Melvin Adrien, plus appelé depuis un an. Pour le reste, c'est du classique avec, entre autres, Jérémy Morel et Faneva.
Saison terminée pour Souleymane Bamba.
Oui, le défenseur international ivoirien s'est rompu le ligament croisé ce week-end en Première Ligue. Remplacé en première période par le Gabonais Bruno Ekwele Manga face à Wolverhampton, on ne le verra plus sur les pelouses jusqu'à la fin de la saison. Souleymane Bamba va se faire opérer demain. Un coup dur pour Cardiff, déjà en grande difficulté en championnat. L'éléphant a notamment effectué 81 interceptions cette saison, plus que tout autre joueur de Première Ligue, et est le meilleur buteur des Bluebirds avec 5 réalisations.
Et Yacouba, la mère d'un footballeur nigérian libéré par ses ravisseurs.
Oui, la mère de l'international Samuel Kalou, attaquant de Bordeaux, a été libérée après près d'une semaine aux mains de ses ravisseurs. Ozurunye Juliette Kalou a été enlevée le 27 février dans l'état d'Abia, dans le sud-est du Nigeria, alors qu'elle était en voiture. Selon la presse locale, la rançon réclamée par ses ravisseurs s'élevait à 36 000 euros, mais la police n'a pas confirmé si de l'argent a été versé ou pas. Pendant le Mondial 2018, on se rappelle, avant la rencontre entre le Nigeria et l'Argentine, le père de John Obi Mikel, capitaine des Super Eagles, avait été kidnappé pour la seconde fois dans l'état d'Enugu avant d'être relâché.
Merci Yakuba Ouedraogo.
Il est l'heure maintenant de passer à notre tranche magazine dans Le Monde Aujourd'hui. Morgane Guiriec et Jacques Aristide, toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique.
Retour en Algérie. La candidature d'Abdelaziz Bouteflika a été officiellement déposée au Conseil constitutionnel hier lundi. Invisible du grand public, car hospitalisé en Suisse, son dossier a été remis par son équipe de campagne. Aujourd'hui, dans les rues d'Alger et dans plusieurs villes du pays, les manifestations continuent pour protester contre cette candidature à un cinquième mandat. Raissa Girondin a joint à ce sujet Fatah Bendali, membre du Conseil national, Jill Jadid.
La candidature de Bouteflika qui a été la goutte qui a fait déborder le vase en disant que basta, c'est terminé. Donc c'est une lame de fond qui a émergé il y a plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, et qui atteint maintenant son pic.
Le président Bouteflika a publié une lettre au moment de sa candidature pour organiser lui-même la rupture, la transition et sa succession dans un an. Alors qu'est-ce qu'il faut croire et retenir du contenu de cette lettre ?
J'aurais tendance à dire pas grand-chose, pour la simple raison que il annonce, entre autres, qu'il a bien entendu le peuple alors qu'il maintient sa candidature, d'une part, il est quand même un comble. Deuxièmement, il dit que je me porte candidat, mais pour un an. Alors, pourquoi un an ? Et s'il estime que les changements auxquels aspire le peuple peuvent se faire en un an, pourquoi ne les a-t-il pas fait en 20 ans au pouvoir ? Donc, c'est une question qu'on est en droit de se poser. Et en projetant aussi, en promettant mise à plat de la Constitution et sa révision par voie référendaire. Alors que pour rappeler à vos auditeurs, il a utilisé au moins deux reprises la modification de la Constitution, mais par voie parlementaire des deux chambres qui ont été à sa cause et qui étaient affiliées.
Il a dit vouloir tenir cette conférence inclusive pour débattre. Alors, est-ce que ce ne serait pas un signe de changement dans la politique algérienne ?
Le système dans sa globalité a perdu toute crédibilité. Pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui, une fois que les gens sont dans la rue, qu'ils acclament le départ de ce régime, on va le croire une énième fois. Et force est de constater qu'il n'a pas tenu ses promesses.
Sur les réseaux sociaux, il y a des appels à manifester après la prière du vendredi à la Grande Mosquée. Ils l'ont même appelé l'acte 2. Est-ce que vous trouvez ça normal ?
Le vendredi, c'est un jour où les Algériens ne travaillent pas. Et ça sera pas le premier vendredi où les Algériens appellent les compatriotes à manifester. L'appel du 8 mars qui va venir est aussi fort dans la continuité, parce qu'il n'est pas question de lâcher la pression. Bien au contraire, la pression va continuer et le combat continue. Et le peuple l'a bien démontré avec le petit détail près que le 8 mars, comme vous le savez, c'est la journée de la femme, et à travers lequel les femmes vont tenir leur pleine place pour manifester et dire également de leur côté non à ce système.
On écoutait Fatah Bendali, membre du Conseil national, Jill Jadid, jointe à Paris.
Au Zimbabwe, la flambée des prix du pain oblige les citoyens à rechercher des alternatives dans un contexte de pénurie alimentaire. Le gouvernement du président Emmerson Mnangagwa dit qu'il travaille pour rendre le pain abordable. Un reportage de Columbus Mavunga à Harare, rendu par Lionel Gaïma.
Au Zimbabwe, une simple baguette de pain coûte au moins 2 dollars, voire plus, ce qui le rend inaccessible aux personnes démunies. Cela n'empêche pas les Zimbabwéens de savourer leur thé dans la pure tradition britannique, mais sans pain bien sûr. Gibson Nema a 63 ans.
Le pain est maintenant trop cher. Parfois, nous prenons de la bouillie, des patates douces ou des légumes verts. Si nous pouvons avoir du pain une fois par semaine, ça va. On s'en passe car c'est cher. Si le gouvernement faisait baisser le prix du pain et de la farine, ce serait bien.
Du coup, les ventes de pommes de terre et autres substituts sont en plein essor. Alwin Mutero est un vendeur de pain.
Les gens achetaient beaucoup de pain, mais ces jours-ci, ils n'en achètent plus. Regardez les étagères. Nous vendions le pain à environ 1 dollar. Maintenant, il coûte près de 2 dollars et demi et les gens n'ont pas les moyens.
Le ministre de l'Industrie, Mangali Sondlovu, s'est dit conscient du problème.
Nous travaillons avec les boulangeries sur la disponibilité du pain et le prix. Il est possible d'avoir un pain à 100% zimbabwéen. Nous tenons beaucoup à ce que le pain soit disponible à des prix abordables.
Le secteur agricole bat de l'aile depuis 2000 suite à la décision du gouvernement d'exproprier les fermiers blancs pour donner leurs terres à des exploitants noirs moins expérimentés. Ben Gelpin est membre de l'Union des fermiers commerciaux du Zimbabwe.
La réforme agraire a eu un impact sur la production de blé. Il est tombé à un niveau très bas à un moment donné. Les agriculteurs ont besoin d'un prix décent. Les meuniers doivent couvrir leurs frais et les entrepreneurs s'approvisionner à des prix abordables.
En attendant une solution à cette situation, les Zimbabwéens devront continuer avec des solutions de rechange comme les citrouilles et autres patates douces à la place de leur pain quotidien.
En RD Congo, plus de 4000 creuseurs artisanaux de la société minière de Bisunzu risque d'être mis au chômage forcé après le changement du système de traçabilité par leur employeur depuis décembre dernier. La commission de lutte contre la fraude minière au Nord Kivu, une structure gouvernementale, appelle les parties concernées à faire des concessions. De Goma, le reportage de notre correspondant Charlie Kasereka.
À Rubaya, dans les territoires de Masisi, 45 km ouest de Goma, la SMB, Société Minière de Bisunzu, encadre à ces jours plus de 4000 creuseurs artisanaux qui demandent aujourd'hui la réouverture des marchés pour leurs employeurs. Aboubakar Amissi et Émile Bachiré, tous des creuseurs artisanaux, ils s'expliquent ici tour à tour.
Qu'ils s'efforcent pour nous payer. Nous n'avons plus même à manger. Nous avons besoin de notre salaire. Tous les travaux sont actuellement bloqués. Il nous faut de l'argent. Certains creuseurs nous ont fui déjà. On ne sait plus les payer.
Les problèmes commencent en décembre quand la SMB change des systèmes de traçabilité de la société ITRI pour la BSP à ce qui concerne la traçabilité de ces minerais. Le directeur général appelle le gouvernement congolais à lui faciliter la tâche pour écouler ces minerais. Plus de 200 tonnes de minerais bloqués ici au Nord Kivu. Ben Mwangachuchu, DG de la SMB.
Pendant 5 ans, on a travaillé ensemble. Il n'y a pas de problème, mais je résilie le contrat le 14, je crois, décembre 2018. Et puis d'un coup, le 15, on commence à inonder le monde entier des incidents. Et nous avons 4 containers qui sont bloqués ici à Goma. Et c'est injuste. Nous avons eu une bonne réaction au niveau des autorités provinciales. Et nous attendons que les autorités aussi nationales puissent à convoquer ITRI et leur demander pourquoi.
Pour les responsables de la commission d'élite contre la fraude minière au Nord Kivu, les creuseurs artisanaux doivent être remis dans leurs droits. Daniel Mbaye et le coordonnateur de cette commission.
Je compatis à tous ces creuseurs qui souffrent. Ils sont censés être payés immédiatement. SMB a travaillé avec ITRI, qui a beaucoup de faiblesses comme toute autre initiative, et qu'il a estimé qu'à ce stade, il voulait changer de partenaire et qu'il travaille maintenant avec BSP. Les choses devaient aller normalement, sans problème.
les minerais infrités devaient être vendus. Mais il se fait qu'il y a des problèmes des acheteurs. C'est que nous demanderons prochainement que le gouvernement fasse aussi des efforts. Nous avons fait des propositions pour que nous entrions nous-mêmes en contact avec les acheteurs.
Tous nos efforts pour avoir une réaction de la société Itri n'ont rien produit. Sur terrain, à Rubaya, Dalemassissi, ouest de Goma, le territoire est confronté à une insécurité qui est déjà palpable avec une attaque armée le week-end dernier visant l'un des stocks de la SMB. Un élément de la police commis à la gare d'Issit a été tué. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Participez à notre magazine interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
En prélude à la journée de la femme, nous vous proposons une série de reportages portraits au Sénégal sur des femmes dites « gagne-peu », qui s'en sortent difficilement, mais qui parviennent à nourrir leur famille grâce à leurs activités. Pour commencer, le portrait de Fatou Diallo, une dame d'une soixantaine d'années, qui est partie de peu et qui est parvenue, à force d'efforts et de sacrifices, à bâtir sa maison grâce à la vente de fruits saisonniers. De notre correspondant à Dakar, Seydina Bagueille.
Sa silhouette frêle, sa petite taille et son visage ridé laissent transparaître son âge assez avancé. Fatou doute de son âge exact, mais elle confie que ça tourne autour de 60 ans. Vendeuse de fruits au marché Sandaga, cette native de Pikin, un département populaire de Dakar, exerce cette activité depuis des années.
Ah, ça fait plus de 10 ans que je vends des fruits depuis le règne du président Abdou Diouf. Je vends des fruits saisonniers, des mades, des melons, pastèques, oranges, entre autres. Je rends grâce à Dieu et je rends hommage à mes parents.
Veuve depuis 10 ans, Fatou assure toute seule les charges familiales. Décrite comme une personne sensible, courageuse, intuitive et battante, Fatou Diallo sort du lit tous les jours à 4h du matin pour gagner sa vie dignement.
Je m'approvisionne au marché Sandika à Pikin. Je me réveille tous les jours à 4h du matin. À 6h, je prends le taxi, le clan d'eau, parfois même le bus pour venir ici à Sandaga.
Son abnégation a porté ses fruits, car c'est grâce à la vente de fruits que Mère Fatou, comme l'appelle affectueusement ses petits-enfants, a pu acheter une maison à Pikin.
J'ai bâti ma maison grâce à cette activité. J'assure les charges familiales. Je paie l'eau, l'électricité. Si j'ai aussi à faire tout cela, c'est parce que je n'ai jamais voulu baisser les bras. Je n'aime pas tendre les mains.
Quand tout va bien, on peut compter sur les autres, mais quand tout va mal, on ne peut compter que sur sa famille. C'est pourquoi Fatou Diallo affirme que sa progéniture est sa force et son plus grand soutien.
Je bénéficie aussi du soutien de ma famille. J'ai des enfants formidables. Nous nous aidons mutuellement.
Dynamique et joviale, voici le message que Fatou adresse aux femmes du monde. Elle leur demande de croire en elle, car la plus grande force d'une femme est sa détermination et sa capacité à surmonter les obstacles de la vie. À Dakar, Seydina Bagueille pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
«
Le Monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Georges Léonard Sanou. C'était notre ami Sidrak Franklin qui était à la technique.
Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Morgan Guiriec et Jacques Aristide dans la capitale américaine. Nous vous souhaitons une excellente soirée sur VOA Afrique. À très bientôt.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.